alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, débute la Jalsa Salana de la Jamaat de l'Allemagne. Cette jalsa débute avec ce sermon. Par la grâce de Dieu, la présence de la jalsa est en train d'augmenter d'année en année. Et j'espère qu'Inch'Allah, la présence va augmenter et il doit en être ainsi. Parce que le Messie promis, lui-même, il a répété cela, il a attiré l'attention de la Jamaat à plusieurs reprises à ce sujet, à savoir que tous les Ahmadis doivent participer dans cette jalsa, dans cette rencontre. Ainsi, nous constatons que le nombre d'Ahmadis est en train de grandir et de même, le nombre de la présence des Ahmadis doit augmenter au cours de la jalsa et pour cela, il y a des gens qui doivent venir, même s'ils doivent venir au prix de souffrance, même s'ils doivent souffrir pour venir ici. Vous êtes chanceux, vous, parce que Dieu vous a accordé l'occasion de participer dans cette jalsa au Pakistan. Il y a des restrictions sur ces rencontres, sur ces jalsa. Et les Ahmadis du Pakistan, ils vivent dans la tourmente. Ils se disent, si seulement on pouvait mettre fin à toutes ces restrictions pour que nous aussi nous puissions organiser des jalsa et pour que nous aussi nous puissions atteindre ces objectifs pour lesquels le Messie premier Islam a organisé la jalsa, des objectifs qu'il a évoqués. Nous aussi, nous voulons profiter de ces prières faites par le Messie premier Islam, prières que le Messie premier Islam a faites en faveur de ceux qui participent dans la jalsa. Il y a certains invités qui sont venus du Pakistan pour cette jalsa. Ce sont des personnes qui m'ont rencontré. Il y a des femmes et des hommes du Pakistan qui m'ont rencontré. Certains ne cessaient de pleurer, ne pouvaient arrêter leurs larmes. Ils disent que nous sommes privés de ces faveurs là-bas, dans notre pays, au Pakistan. Priez pour que nous aussi, nous puissions profiter de cette faveur. En tout cas, tout comme je l'ai dit à plusieurs reprises, tout comme je le dis tout le temps, les Ahmadis du Pakistan, s'ils désirent sortir de ces difficultés, Et bien plus qu'auparavant, ils doivent se prosterner devant Dieu. Et ils doivent prier pour qu'Allah leur accorde ses faveurs au plus vite. La persécution de leurs tortionnaires, pour qu'Allah libère de la persécution de leurs tortionnaires et de ces personnes cruelles. Tout cela va se faire uniquement par l'entremise de la prière. Il n'y a pas d'autres armes à notre disposition pour atteindre cet objectif. En tout cas, je m'adresse à vous, les Ahmadis qui habitent ici. Et je disais à vous que vous êtes chanceux. Vous êtes chanceux parce que Dieu a créé tout cela pour vous. C'est-à-dire, on est en train d'organiser les Jalsa. Il y a ces rencontres que l'on peut organiser. Et à tout niveau, il y a des rencontres pour les Ahmadis. Ainsi, vous devez être reconnaissant envers Dieu pour cela. Et vous pourrez prouver votre reconnaissance. Vous allez pouvoir prouver votre reconnaissance lorsque vous allez profiter pleinement du programme de la Jalsa durant les jours de la Jalsa et par la suite, après. Si vous avez entendu de bonnes choses, les bonnes choses que vous avez entendues, que vous avez vues ici, eh bien, vous devez faire en sorte que ces choses, ces paroles, ces bons conseils fassent partie intégrante de votre vie. Ainsi, le Messie premier Islam a déclaré que l'on doit faire preuve de patience et que le but de la Jalsa, c'est de chercher le but de la foi, de la religion, et de chercher uniquement le but de la religion à travers cette Jalsa. C'est-à-dire, toute personne qui participe dans la Jalsa doit participer dans la Jalsa avec cet objectif, avec cette intention que je vais endurer ces quelques difficultés pour quelque temps. Même si je dois endurer ces difficultés, je vais le faire. Je vais le faire et je ne serai point impatient. Je ne vais pas faire sortir des paroles d'impatience de ma bouche. À savoir qu'on nous a traités ainsi ou ainsi. Tout d'abord, sachez que généralement, ces volontaires qui sont en train de travailler ici par la grâce de Dieu, ce sont des personnes qui font de leur mieux pour s'acquitter de leurs devoirs. Et quand il y a des lacunes, eh bien, quant à ceux qui peuvent être coupables de certaines lacunes, je leur dis qu'ils doivent faire preuve de patience, de tolérance. Ils doivent, pour le plaisir de Dieu, accomplir leur objectif, assumer leurs responsabilités. Et je demande aussi aux participants de la Jalsa, aux invités, que vous êtes venus pour la Jalsa uniquement afin, vous êtes venus ici uniquement pour accroître votre connaissance religieuse. Vous êtes venus ici pour profiter de cette atmosphère spirituelle pour que vous puissiez grandir dans votre spiritualité. Et quand vous allez accomplir ce progrès spirituel, vous allez y faire participer vos descendants. On doit tout le temps ressentir cette anxiété que ressentait le Messie premier Islam, qui a déclaré, que je le dis et je le répète, que vous devez purifier vos yeux et vous devez éclairer vos yeux spirituellement. Vous devez éclairer vos yeux spirituellement, tout comme vos yeux sont éclairés physiquement. Il dit, l'on pourra être qualifié de sujata, c'est-à-dire l'on pourra faire la différence entre le bien et le mal, et lorsque l'on va se tourner vers la vertu. Il a déclaré que le salut est accordé uniquement à ceux qui se détournent des choses de ce monde, des pensées de ce bas monde, et qui se sont purifiés leur cœur des pensées de ce monde. Il a aussi déclaré que tant que le cœur ne se prosterne pas en toute humilité, eh bien, sachez qu'il ne faut point se contenter de ces prosternations physiques. Tout comme la chair de la viande, la chair de l'animal immolé ne peut atteindre Dieu, c'est seulement la taqwa qui accompagne cette viande, qui l'accompagne, qui monte au ciel. De même, ces prosternations physiques ne serviront à rien ne serviront à rien tant que l'on ne se prosterne pas physiquement, tant que l'on ne se courbe pas spirituellement. Tant que l'on ne se courbe pas spirituellement, tant que l'on ne se prosterne pas spirituellement. Et pour cela, il faut suivre les ordres de Dieu. La ruku, c'est-à-dire, c'est que l'on doit se courber devant Dieu. Et se prosterner, c'est de mettre de côté son âme. Et ensuite, il a déclaré, le Messie premier d'Islam a aussi fait cette prière. Il a déclaré que je prie qu'Allah purifie les cœurs des membres de ma Jamaat, qu'il leur accorde sa grâce et qu'il attire leur cœur vers lui. Ainsi, voilà ces sentiments du Messie premier d'Islam, cette douleur qu'il ressentait, ces prières. Voilà les prières du Messie premier d'Islam, des prières qu'il a faites en notre faveur pour que nous puissions nous réformer et pour que nous puissions aussi atteindre l'objectif de cette jalsa. Ces jalsas ont pour but de réformer nos œuvres, notre réforme, pour apporter la réforme de notre conduite. Dieu nous a accordé ces 3 jours afin que nous puissions faire notre analyse de conscience, réformer notre conduite afin que nous soyons vigilants à ce sujet. Et ainsi, nous pourrons atteindre cette norme lorsque nous serons soucieux à ce sujet, lorsque nous allons faire des efforts en ce sens. Chaque parole du Messie premier l'Islam, chaque mot du Messie premier l'Islam était empli de cette anxiété, de cette douleur, et chacune de ces paroles doit nous ébranler. Il a déclaré que vous devez éclairer votre œil spirituel tout comme vos yeux physiques sont éclairés par la lumière. Nos yeux, si nous souffrons des yeux, le moindrement, eh bien, nous serons fort tourmentés. Immédiatement, on va partir voir un médecin. Nous sommes soucieux de la moindre souffrance qui nous vient de nos yeux. Et pour cela, nous faisons beaucoup d'efforts. Et on essaye de protéger nos yeux de toute chose qui peut affecter notre vision, qui pourra affecter négativement notre vue. Est-ce que l'on ne doit pas faire les mêmes efforts pour nos yeux spirituels? Est-ce que l'on ne doit pas faire les mêmes efforts pour la santé de nos yeux spirituels? Est-ce que nous sommes en train de faire ces efforts au moins? Si durant ces 3 jours, nous sommes vigilants à ces propos, eh bien, lorsque nous retournons à l'extérieur, nous nous empêterons dans des œuvres, dans des actions qui sont en train d'avoir un effet négatif sur notre spiritualité. Ainsi, afin d'éclairer nos yeux spirituellement, sachez que cela ne doit pas se faire durant quelques jours uniquement. Mais pour maintenir ces 3 jours ne sont qu'un traitement que nous sommes en train de subir. Si après ce traitement, nous ne prenons pas des précautions, eh bien, cet œil spirituel sera affecté. C'est pour cette raison que le Messie premier l'Islam a déclaré que l'on doit reconnaître le bien et le mal. Et lorsque vous allez reconnaître, vous allez faire la différence entre le bien et le mal, eh bien, vous allez devoir vous tourner vers la vertu et vous devez accomplir ces bonnes œuvres que Dieu vous a demandé d'accomplir. Et dans ces bonnes œuvres, il y a aussi le fait de s'acquitter de ses devoirs envers Dieu et envers les créatures de Dieu. Je vais mentionner un de ces droits, un de ces devoirs que nous avons. Et c'est quelque chose qui est en train de nous tourmenter beaucoup au sein de la Jamaat. Nous sommes inquiets à ce sujet au sein de la Jamaat. Et puisqu'on ne respecte pas ce droit, cela est en train de créer des troubles au sein des familles, des cellules familiales. Il y a nombre de jeunes filles qui se marient et qui viennent du Pakistan pour se marier ici ou qui se marient ailleurs. Et puisqu'on n'est pas en train de respecter cette règle, eh bien, ces jeunes filles, puisqu'elles sont loin de leur maison, souffrent beaucoup. Et leurs parents qui sont au Pakistan ne peuvent dormir parce qu'ils sont inquiets en raison de leur jeune fille. C'est vrai qu'il y a les garçons, leurs maris sont coupables. C'est vrai aussi que peut-être qu'il y a des excès de la part des parents. Mais dans la plupart des cas, ce sont les parents qui sont plus coupables. Mais le mari, lui aussi, est en train de faire de son mieux pour nuire, pour faire souffrir sa femme. Mais il ne voit pas cela. Mais la femme, quant à lui, elle souffre beaucoup au sein de la société. Et comme je l'ai dit, ses parents qui sont ailleurs sont soucieux en raison de la situation de leur fille. Eh bien, sachez que ces personnes qui, en toute connaissance de cause, sans aucune raison, en raison de leur égocentrisme, sont en train de commettre ces actions, quelles que soient les personnes concernées, ces personnes doivent avoir peur de Dieu. Dans certains cas, certains responsables ne craignent pas Dieu. Et ils sont en train de participer dans ces persécutions, dans ces troubles. Craignez Dieu, vous devez craindre Dieu. Chacun d'entre vous doit se débarrasser de ces maladies spirituelles, doit faire des efforts en ce sens. Le Messie promis, alayhi salam, a déclaré que le salut sera accordé à ceux qui sont vigilants quant à ces sentiments qui les entraînent vers ce monde et qui se sont débarrassés de ces sentiments et dont les cœurs sont purs. Ainsi, on doit réfléchir sur ces paroles emplies de douleur du Messie promis, alayhi salam. Est-ce que nos cœurs se sont détournés de tout sentiment qui attire ce monde? Ou est-ce que ces sentiments, ces pensées, ces passions de ce monde nous ont entourés, nous ont engloutis? Est-ce qu'on peut dire que nous nous sommes protégés de tout vice, de tout péché? Que les autres sachent ce que nous sommes en train de faire ou pas, quelles sont nos actions ou pas. Que les autres le sachent ou pas, est-ce que nous considérons Dieu comme omniscient, tout-puissant? Est-ce que nous sommes en train de nous détourner de toute forme d'impureté? Est-ce que nous sommes en train d'éviter toute forme d'injustice à l'égard des autres? Est-ce que, aux yeux de Dieu, nous sommes en train de nous innocenter? Voilà la question à poser. Est-ce que nos cœurs sont là pour que nous nous tournions vers le monde, vers Dieu et vers ses créatures? Est-ce que nos cœurs se sont purifiés? Ou est-ce que nous sommes en train de faire de notre mieux pour purifier notre cœur? Est-ce que nous sommes en train de demander l'aide de Dieu tout en faisant ses efforts? Si nous ne sommes pas en train d'agir ainsi, eh bien, notre situation est très inquiétante. Est-ce que nos prosternations sont emplies d'humilité? Est-ce que ce sont des prosternations emplies d'humilité? Ces prosternations emplies d'humilité sont ces prosternations qui sont accompagnées de ces efforts que l'on fait, pour la cause de Dieu, des efforts que l'on fait pour que nous puissions attirer les faveurs de Dieu, des actions qui seront agréées par Dieu. Allah a décrit ses prosternations physiques dans le Saint-Coran. Il a déclaré « Fawailu lil musallin ». Maudits soient ces personnes qui prient. Qu'Allah nous protège de cela. Qu'Allah fasse que nous ne soyons pas de ceux qui tombent sous le coup de la colère de Dieu et qui soient détruits en raison de cette colère divine. Mais Dieu est indépendant, sachez-le. L'on doit toujours craindre Dieu. Ainsi, tout comme l'a déclaré le Messie promis, l'Islam, nous devons accomplir ces prosternations, ces génuflexions qui plaisent à Dieu. Ces exemples pour lesquels Le Messie Premier Islam est venu. Le Messie Premier Islam nous a expliqué cela. Il a déclaré, c'est quoi se mettre debout? C'est quoi se courber et se prosterner pour la cause de Dieu? Il a déclaré que se mettre debout spirituellement, c'est de suivre les préceptes de Dieu. On pourra se mettre debout lorsque son cœur sera debout, sera droit devant Dieu, lorsqu'on va respecter les ordres de Dieu. Et quels sont ces ordres divins? Ces ordres divins sont ces ordres qui ont été évoqués dans le Saint-Coran. Et maintenir ces ordres tout droit ou se maintenir tout droit signifie se cramponner à ces ordres divins afin de ne point tomber. Il ne faut point tomber et il ne faut point s'éloigner de ces commandements divins. Il ne faut jamais abandonner le soutien de ces commandements. Il ne faut jamais les considérer comme inférieurs. Se courber avec son cœur signifie que l'on doit toujours se tourner vers Dieu pour toute chose. L'on ne doit point se tourner vers ce monde. L'on ne doit point considérer les moyens de ce monde, les choses de ce monde, que c'est grâce à cela que l'on pourra résoudre ces difficultés. Et que signifie se prosterner avec son cœur ou la prosternation du cœur? La prosternation du cœur, c'est de se détourner complètement de sa personne pour avoir le plaisir de Dieu. Il faut être prêt à tout sacrifier, sacrifier sa personne, sacrifier ses proches pour la cause de Dieu, sacrifier ses relations pour la cause de Dieu, sacrifier son égocentrisme pour la cause de Dieu et sacrifier son sens de l'honneur. Ces faux sens de l'honneur, il faut les sacrifier pour la cause de Dieu. Il faut sacrifier ces choses que vous considérez comme votre honneur, mais ce sont des faux honneurs qui vous détournent de Dieu. Vous devez les sacrifier. Si vous voulez faire montrer un sens de l'honneur, vous devez le faire en faveur de la foi, de la religion. Et vous devez, si quelqu'un agit contre les préceptes de Dieu, vous devez montrer votre sens de l'honneur. Ainsi, toutes nos actions doivent... Nous devons tout le temps faire ces actions qui vont purifier nos cœurs. Le Messie premier l'Islam déclare que moi, je désire cela de ma jamaat. J'ai l'espoir que Dieu va accorder sa grâce, sa miséricorde à ma jamaat et que tel sera l'état de ma jamaat. Le Messie premier l'Islam a déclaré que celui qui n'essaye pas d'agir en ce sens, eh bien, cette personne n'a aucune relation avec moi. Qu'Allah fasse que aucune personne d'entre nous ne soit pas parmi ceux qui n'ont pas de relation avec le Messie premier l'Islam, ceux qui ont coupé leur relation avec le Messie premier l'Islam, mais que chacun d'entre nous fasse ses efforts, que nous soyons en compagnie du Messie premier l'Islam, que nous puissions renforcer davantage notre relation avec le Messie premier l'Islam. Ainsi, tout comme je l'ai dit, tout participant à la Jalsa doit faire son analyse de conscience. Il doit voir jusqu'à quel point nous sommes en train d'atteindre cette norme qui a été fixée par le Messie premier l'Islam, ce que désirait le Messie premier l'Islam. Durant les jours de la Jalsa, Dieu nous a accordé cette atmosphère particulière, cette atmosphère grâce auquel on pourra s'acquitter de ses devoirs envers Dieu et envers les hommes. L'on pourra faire montre de cet acquittement. Et il faut aussi faire en sorte que ces efforts que nous avons faits fassent partie intégrante de notre vie. Inch'Allah, à la fin de ce mois, va débuter le mois du Ramadan. Le Ramadan qui est le mois de notre réforme. Si l'on veut lier ces bénédictions de la Jalsa avec les bénédictions du Ramadan, eh bien, nous pourrons apporter en nous un changement, une révolution spirituelle. Et si nous ne sommes pas venus à la Jalsa avec ces objectifs ou que ces jours-là ne sont pas des jours grâce auxquels on pourra se réformer, si on ne fait pas des efforts en ce sens, eh bien, Le fait d'être présent pour sa jalsa ou le fait d'être présent ou de ne pas être présent à la jalsa sera pareil. Il n'y aura pas de différence. Au contraire, la présence à la jalsa peut nuire à notre personne. Dans ce cas, cette rencontre peut nous détourner du droit chemin. Le deuxième calife, radhiyallahu anhu, avait évoqué un incident qui s'est passé au cours de la vie du Messie premier l'Islam. Il y avait une personne qui, en raison de sa malchance, eh bien, cette personne n'a pas pu profiter de la présence du Messie premier l'Islam. Au contraire, cette personne a perdu sa foi lorsqu'elle était en compagnie du Messie premier l'Islam, tout simplement parce que l'égocentrisme de cette personne, ces fausses vertus de cette personne sont devenues des obstacles dans sa voie. Ce qui s'est passé, c'est que un jour, le Messie premier l'Islam ou le Messie premier l'Islam venait à la mosquée et les gens faisaient de leur mieux de se rapprocher du Messie premier l'Islam et d'écouter les paroles du Messie premier l'Islam et de grandir de leur spiritualité, d'avoir un confort spirituel. Et lors d'une de ces rencontres, une personne est venue. Cette personne est entrée dans la mosquée et a commencé à faire ses sunnahs dans un coin de la mosquée ou au milieu de la mosquée. Il a fait de très longs sunnahs et ces personnes qui voulaient se rapprocher du Messie premier l'Islam, eh bien ces personnes ne pas pu se rapprocher du Messie premier l'Islam. Ces personnes étaient inquiètes parce qu'ils ne pouvaient pas se rapprocher du Messie premier l'Islam. Il y avait d'autres qui passaient par d'autres voies et ont commencé à se rapprocher du Messie premier l'Islam petit à petit. Et ainsi, lorsque certains marchaient vite, traversaient rapidement pour passer voir le Messie premier l'Islam, et le coude de quelqu'un a tapé sur cette personne qui priait, et celui-ci a déclaré que c'est là, il est un bon messie. Voilà cette personne dont les disciples sont en train de frapper ceux qui sont en train de prier. Il était très en colère, celui-là. Et il est devenu un renégat et il est parti. Voilà donc son malheur à lui, cette personne. Lors de cette même rencontre, ces rencontres étaient là pour faire grandir la foi des gens. Ce sont des rencontres qui étaient là pour faire grandir la foi. Des fois, mais cette même rencontre l'a égaré quant à lui. Et ainsi, ses rukus, ses sujouds étaient là que par ostentation. Et il le faisait pour faire voir aux autres. Et dans ses rencontres en compagnie du Messie premier l'Islam, et le Messie premier l'Islam était en train de distribuer ses mets spirituels venant de la part de Dieu. Il a abandonné cela et il a cessé de prier. Et grâce à cela, il a perdu sa foi. Ainsi, c'est vrai que les rencontres du Messie premier l'Islam ont leur objectif. Mais à la lumière de ses enseignements, nous voyons la même chose, c'est-à-dire il est là pour commenter sur le Saint-Coran, il est là pour commenter sur la personne du Saint-Prophète Mohammed paix soit sur lui, le comportement du Messie premier l'Islam. Et lors de ces rencontres, quant à nous, nous expliquons cela, nous sommes en train d'accomplir la prière en congrégation, la prière Tahajjud, et pour chaque programme ou lors de chaque programme, tout le monde doit venir pour ces programmes et doit profiter de ces programmes au cours de la Jalsa. Si vous avez raté vos prières pour quelque raison, eh bien, vous devez partir dans un coin pour le faire afin... Vous devez agir en ce sens afin que vos prières ne soient pas affectées et afin que les gens n'aient pas de difficultés pour s'asseoir. Afin que ces gens puissent écouter tranquillement les discours lors de la Jalsa. Souvenez-vous aussi de ce fait. Souvenez-vous que cette bonne œuvre, ces vertus sont ces actions qui sont accomplies en accord à la situation. Sinon, les actions inappropriées ou ces actions qui ne sont pas accomplies au moment approprié, ces actions peuvent nous égarer. Malheureusement, nous avons perdu le son. Ainsi, vous devez réduire votre prière et vous devez vous asseoir dans ces rencontres. Et si vous agissez en ce sens, eh bien, vous n'allez pas perdre votre foi, vous allez profiter de ces rencontres. Et grâce à cela, l'on comprend aussi que l'on doit faire preuve de patience et d'endurance. C'est cela qui va nous protéger de l'égarement. Durant ces jours, vous devez... Si quelqu'un vous fait souffrir, pour quelque raison, il n'est pas question seulement d'être frappé du coude. Même si quelqu'un vous tourmente ou vous a fait souffrir, vous devez faire preuve de patience, de persévérance. Et vous devez avoir en tête l'objectif sublime pour lequel vous êtes venu ici. Lors de la Jalsa, dans certains cas, en raison de cette impatience de la part de certains, de cette intolérance de la part de certains, eh bien, il y a certaines personnes qui s'en viennent aux mains, qui commencent à se disputer. Et conséquemment, on doit prendre des mesures contre ces personnes. Et des fois, cela les égare davantage parce que leur sens de l'honneur, leur égocentrisme entre en action. Et ces personnes perdent leur foi. Et comme je l'ai dit, cette Jalsa, au lieu d'être une source de bénédiction pour ces personnes, eh bien, cette Jalsa, ces rencontres, les éloigne de Dieu. Et en raison de cette Jalsa, ces personnes perdent leur foi. Mais si vous faites preuve de tolérance, d'endurance, si vous avez pour objectif les buts de la Jalsa, non seulement que vous allez progresser dans votre foi, mais vous allez aussi faire progresser nombre de personnes dans leur foi. Par la grâce de Dieu, dans le monde de l'Ahmadiyya, aujourd'hui, il y a des Jalsa partout dans le monde. Il y a des Jalsa dans des vingtaines de pays. Les membres de la Jama'a du Messie Premier des Salab qui appartiennent à différents peuples, à différentes nations, eh bien, puisque la direction est en train de se répandre dans le monde, eh bien, ces personnes sont en train de se prosterner davantage devant Dieu. Et nous aussi, nous devons agir en ce sens. Si un malheureux a perdu sa foi, eh bien, il y a des centaines de personnes chanceuses qui acceptent la foi. Et il y a d'innombrables exemples, des exemples que nous avons vus à l'époque du Messie Promet l'Islam et que nous sommes en train de voir aujourd'hui aussi. Je vais présenter un exemple ici. Il y a ces personnes qui sont guidés et qui habitent à des milliers de kilomètres de là, mais qui sont en train de grandir dans la foi. La majorité d'entre eux n'ont peut-être jamais vu le calife de l'époque. Et quant à ceux qui ont vu le calife de l'époque, eh bien, ils l'ont vu peut-être 30 ans de cela. Mais voyez comment ces personnes sont en train de grandir dans leur foi. Cela nous étonne. Il y a un incident qui concerne la Sierra Leone. Il y a quelqu'un qui a écrit de la blague. Il y avait un certain imam d'une région, un Sheikh Adam, qui était contre la Jamaat, qui était hostile à l'égard de la Jamaat. Sheikh Ibrahim Touré Saheb, notre mualim, parlait avec lui à propos de la Jamaat. Et lorsque la Jalsa de la Jamaat de Sierra Leone était proche, eh bien, il a dit à ce mualim, il a invité cet imam ainsi que son adjoint. L'imam en chef a rejeté cela, mais Cheikh Adam, son adjoint, a accepté son invitation. Et il est venu pour cette Jalsa. Il a participé à la Jalsa de la région de Bou. Et il a déclaré cette. L'imam adjoint disait que moi, pourquoi est-ce que ces personnes ont fait autant de dépenses pour se rencontrer? Mais le premier jour de la Jalsa, lorsque les gens se sont réunis pour la prière de Tahajjud, il y avait une grande rencontre. Lors de la prière de Tahajjud, j'ai entendu le Saint-Coran. Lorsque j'ai entendu les prières et les pleurs de ces personnes, cela a fait trembler mon cœur, a fait fondre mon cœur. Et je me suis dit que le fait que les gens se consacrent à l'adoration de Dieu, tout cela me fait comprendre que ce sont des personnes véridiques. et que c'est la Jamaat des gens véridiques. Les gens véridiques n'agissent pas ainsi. Et le missionnaire aussi a déclaré, l'adjoint, l'imam adjoint dit au missionnaire que le missionnaire lui a dit, comment avez-vous la Jalsa? Et cet imam a déclaré que je suis très impressionné par la Jamaat et par le comportement des Ahmadis. Je suis maintenant Ahmadi et je n'ai pas maintenant de doute. Il est parti de sa région, il a prêché le message de l'Ahmadiyya. Il a dit que l'islam véritable, c'est l'islam présenté par la Jamaat Ahmadiyya. Son imam l'a rejeté. Ensuite, il a déclaré que moi, je vais tout abandonner. J'ai vu la vérité, je vais accompagner la vérité. Et par la grâce de Dieu, nombre de personnes ont embrassé l'Ahmadiyya là-bas. Ainsi, cette Jalsa a pu guider cette personne. Et des centaines de personnes ont été guidées à travers celui qui a été guidé. Et ces personnes ont pu accepter l'imam de l'époque. Cheikh Adam Saeb, puisqu'il est venu Ahmadi grâce à la Jalsa, eh bien, il a changé son nom maintenant. Et il s'appelle maintenant Cheikh Adam Jalsa Salana. Ainsi, ces Jalsa peuvent faire naître d'innombrables Adam. Qu'Allah fasse qu'ils puissent apporter ces changements en leur personne. Et Allah est en train d'apporter, de créer de nouveaux cieux, de nouvelles terres pour ces personnes. Ainsi, nous aussi, nous devons être soucieux à ce sujet. Nous, la majorité d'entre nous qui sont des Ahmadis de naissance, nous devons nous corriger. Il y a nombre de demandeurs d'asile qui sont ici. Ils ne doivent pas croire qu'ils sont venus pour des objectifs mondains. Si il y a de l'hostilité à l'égard de la Jamaat au Pakistan, eh bien, s'ils sont venus ici en raison de ces persécutions, ils doivent être les ambassadeurs de la Jamaat et ils doivent, par leurs actions, présenter les véritables enseignements de l'islam et de l'Ahmadiyya. Et au lieu de se tourner vers ce monde, certes, vous devez acquérir les choses de ce monde, mais au lieu de vous impétrer entièrement dans ce monde, vous devez être vigilant quant à votre spiritualité. Voilà les bénédictions de la Jalsa que nous sommes en train de voir partout. Aujourd'hui, maintenant, dans le monde de la Jamaat Ahmadiyya, il y a cette course pour se dépasser les uns les autres dans le domaine de la vertu. Vous aussi, faites des efforts. Ne restez pas en arrière dans cette course. Il fut un temps où on se comparait avec les villes. Maintenant, on est en train de comparer les pays. Et maintenant, on doit ressentir cette douleur du Messie promis, et l'on doit apporter des changements à sa personne. Ici, je voudrais m'adresser aux volontaires en particulier, ces volontaires qui sont responsables de l'hospitalité. Je veux leur dire que le Messie promet les salam. Lorsque le Messie promet les salam avait reçu la révélation, voici Makanaka, qu'il doit élargir sa maison. Eh bien, sachez qu'il avait reçu cette révélation parce qu'il y avait grand nombre d'invités qui venaient vers lui. Et le Messie promet les salam s'occupait de chacun de ses invités selon ses besoins personnels. Et cela ne cessait de grandir, d'accroître. Le Messie promet les salam a reçu cette révélation. Il avait reçu cela auparavant, au tout début. Et à plusieurs reprises, il a reçu cette révélation. Jusqu'à la fin, il a reçu cette révélation sous plusieurs formes. Ainsi, le message, voici Makanaka. C'est un message qui est pour ses disciples. Et cela a été aussi pour ceux qui travaillent avec lui, ses aides qui travaillent avec lui, c'est-à-dire il doit élargir sa maison. Il devait élargir sa maison et il devait aussi accroître l'hospitalité, c'est-à-dire l'accueil qu'on reçoit. Il y a de nouvelles mosquées qu'on est en train de bâtir ici, de nouvelles mission houses qu'on est en train d'ouvrir. C'est pour cette raison qu'on doit recevoir plus d'invités maintenant. Ainsi, Allah a déclaré, vous qui êtes en train de travailler, vous qui avez accepté le Messie promis, vous devez point vous lancez de cela. Le Messie promis, alayhi salam, était déjà généreux par avant. Et Dieu lui avait dit à propos des invités qu'il ne doit pas se soucier en raison du nombre d'invités. Voilà le sens de ces paroles qu'il avait reçues. Le Messie promis, alayhi salam, ces révélations étaient ici pour ces travailleurs qui étaient là pour s'occuper des invités. Cela concerne ceux de son époque et ceux qui sont venus après, ceux qui devaient servir ces invités. Ce sont là des moments pour qu'ils puissent recevoir ces bénédictions. Ainsi, vous devez accomplir cette prophétie. Pour cela, vous devez élargir votre cœur, ouvrir votre cœur davantage pour les invités. La langar khana, la cuisine du Messie premier Islam, était quelque chose d'important. Et aujourd'hui, lorsque le calife est présent, eh bien, on fait tourner cette cuisine du Messie premier Islam afin que les gens se rapprochent du Messie premier Islam. Ainsi, durant ces jours, l'on doit être très vigilant à propos des invités. Même dans des situations ordinaires aussi, on doit être très attentif à l'égard des invités. Dans le Saint-Coran, on trouve l'exemple de l'hospitalité du prophète Abraham. Il a été dit à ce sujet que le prophète Abraham, alayhi salam, n'a pas demandé à ses invités si je dois vous offrir quelque chose ou pas. Et il n'avait pas peur de faire des dépenses pour ses invités. Il s'occupait de ses invités de leur confort. Et le saint prophète Mohammed lui aussi a souligné l'importance de bien accueillir ses invités. Il était très content lorsqu'il a su qu'aujourd'hui à Médine, il y a un de ses compagnons qui a accueilli un invité chez lui et qui s'est soucié davantage de son invité, qui a fait plus ce qu'il fallait faire et qui s'est bien occupé de son invité. Il y a aussi les exemples du Messie promis alayhi salam à ce sujet. Il a couru derrière un invité qui était en colère contre les travailleurs de la cuisine. Et il a encouragé cet invité de retourner. Le Messie promis alayhi salam lui-même a fait descendre ses biens de la voiture. Les travailleurs ont pris ses bagages des mains du Messie promis alayhi salam. Le Messie promis alayhi salam agit ainsi parce qu'il voulait montrer ce sens de l'hospitalité. Il voulait enseigner cela à ses disciples. On ne doit pas en tirer plaisir. En écoutant cela, on ne doit pas se contenter de lire cela. Il faut aussi traduire cela dans la pratique. Le Messie promis alayhi salam, tout comme je l'ai déclaré, le Messie promis alayhi salam, avant même l'établissement de la Jamaat, avait reçu cette révélation qu'il doit élargir sa maison. Il avait reçu des révélations que les gens allaient venir. Et il a évoqué cela à plusieurs reprises. Ces révélations, il les a reçues à plusieurs reprises jusqu'à la fin. Même en 1907, il a reçu cette révélation parce que il faut que les membres de sa Jamaat comprennent ce sujet. Ainsi, je veux faire comprendre aux organisateurs de la Jalsa qu'ils doivent comprendre l'importance de l'hospitalité, de bien accueillir ses invités. Nous voyons donc cette hospitalité au cours de la Jalsa où on est en train de préparer des repas pour plus de 30 000 personnes. On est en train, c'est pour cette raison qu'on prépare un seul repas, il y a du pain. On doit aussi transmettre cette nourriture à tout un chacun, que chacun ait cette nourriture selon ses besoins, et que l'on doit aussi offrir cette nourriture tout en honorant cet invité. Il faut aussi prendre cette précaution qu'il n'y ait pas de gaspillage. Mais pour éviter le gaspillage ne signifie pas que l'on doit, dans cette chaleur, que l'on doit de nouveau offrir le même repas aux gens, des repas avariés pour qu'ils soient malades. Et ensuite, il y a l'hospitalité ordinaire durant les jours ordinaires. Et cette hospitalité ordinaire, eh bien, sachez que durant ces jours, le Messie promet les salams, lui, il comblait les besoins de chaque invité selon ses besoins personnels, selon sa nature personnelle. Ainsi, les responsables doivent être vigilants à ce sujet. Lorsqu'ils ont donné quelque chose à manger, cela ne s'arrête pas là. Il faut aussi, ils ne pourront pas s'acquitter de leur devoir envers leur invité entièrement. Il y a aussi nombre d'invités non ahmadis, non musulmans qui participent dans nos rencontres. Nous avons aussi un grand devoir sur cette personne et notre hospitalité a de l'effet sur ces personnes. Ils sont impressionnés par cela, par la grâce de Dieu. La Jamaat de l'Alma est en train de bâtir ses mosquées lors de ses réceptions. Pour l'ouverture de ces mosquées, on reçoit des invités de l'extérieur et on offre du thé et d'autres choses. C'est vrai qu'il faut le faire jusqu'à un certain point. On peut faire mieux, mais selon moi, le fait, il y a des difficultés. Ils disent qu'ici, les gens n'ont pas l'habitude de s'asseoir sur des bancs. C'est pour cette raison qu'on place des bancs en bois. Même s'ils ont cette habitude de s'asseoir sur des bancs en bois, selon nous, notre norme doit être plus élevée dans le domaine de l'hospitalité. Même s'ils ont l'habitude de s'asseoir sur ces bancs en bois, eh bien, vous devez faire en sorte ici aussi, au lieu de mettre des chaises, eh bien, mettez ici des bancs, c'est tout. Eh bien, pourquoi vous avez choisi une norme pour vous et une autre norme pour vos invités? Cela ne veut pas dire que l'année prochaine, eh bien, vous allez placer des bancs au lieu de ces chaises. Je veux tout simplement dire que vous devez laisser les chaises ici. Ne placez pas des bancs ici. Il ne faut pas que, sinon, l'officier de la Jassasana va essayer de diminuer son budget. Donc, il faut bien s'occuper de ses invités et avoir il faut faire en sorte que l'on puisse recevoir ses invités avec honneur et honorer les invités et les faire s'asseoir avec honneur. Notre norme, il faut que les gens voient cette norme excellente que nous avons atteinte de l'hospitalité. Ce sont les enseignements que nous avons reçus. J'ai évoqué aussi ces petits rafraîchissements. C'est vrai que cela est bien, certes, mais l'on doit aussi, je pense qu'il y a de l'écho, dit le calife, mais il faut aussi savoir ce qu'aiment les gens. Si vous voulez inviter les gens pour un repas, et s'il y a des invités de l'extérieur, des non-ahmadis, eh bien, vous devez préparer des repas qui sont en accord à ces personnes avec ce qu'ils ont l'habitude de manger. Il ne faut pas qu'il y ait du piment. Il faut qu'il y ait des choses que les gens aiment aussi. On peut préparer des repas halal et toyibs selon la nature. Quelques jours auparavant, à Munir, il y avait l'ouverture d'une mosquée. Il y avait plusieurs députés. Il y avait un député qui était avec moi. Il y avait des maires aussi qui étaient présents. Et il y avait un repas qui était préparé pour ces événements, mais il y avait beaucoup d'invités qui étaient présents, des Allemands de souche, il y avait plus de 200, c'était des personnes très, très importantes qui étaient là. Mais selon moi, le repas qu'on avait à faire, c'était que du dal et de la viande. Peut-être que certains d'entre eux n'ont rien mangé, je crois. Il y a une réception, on invite ces personnes de la haute société. Il y a aussi des personnes qui viennent ici parce que le calife est présent. Et il faut s'acquitter de ses devoirs envers ses invités. Si la Jamaat locale n'a pas de budget, eh bien c'est la responsabilité du centre du pays que de s'occuper de ses invités. La réception était très bonne. Il y avait des personnes importantes qui étaient présentes. La salle aussi était bien. Mais j'ai évoqué ces quelques lacunes. Sinon, nous aurons cette habitude partout. Souvenez-vous aussi de ce fait qu'il y a ces invités qui viennent durant les jours de la salle. Lorsque je suis ici, en Allemagne, comme je l'ai dit, il faut faire de son mieux envers ses invités. Il faut que le département de l'hospitalité fasse de leur mieux dans le domaine de l'hospitalité en faveur de ses invités. Lorsque je pars dans une ville, c'est aussi les devoirs des Ahmadis de ces pays. et ils doivent le faire sans faire preuve d'ostentation. Mais il ne faut pas dire que ces invités sont des fardeaux pour nous. Il ne faut pas. Il faut faire en sorte que personne ne soit blessé dans ses sentiments. Allah a déclaré que vous ne devez pas faire étalage de vos faveurs. Il a déclaré que vaut mieux dire une bonne parole que de faire de l'aumône pour ensuite blesser les sentiments de l'autre. La mehman nawazi, l'hospitalité, c'est le droit des invités. Être hospitalier et faire preuve de l'hospitalité envers ces personnes pour ensuite en parler est un acte abject. Il y a certains qui sont coupables de ces actions. Il y a ces personnes qui disent que ces personnes qui sont en ma compagnie et disent cela à ces personnes, ils sont en train de blesser leurs sentiments. En tout cas, je suis en train de mentionner cela en passant. J'ai dû en faire mention, mais prier pour que je n'ai pas mentionné cela en plus de détails et que ces personnes qui sont concernées soient vigilants à ce sujet. En tout cas, j'ai l'espoir que les personnes responsables puissent comprendre leur erreur, puissent faire l'istighfar. Qu'Allah fasse que toutes ces personnes soient douées d'intelligence, que ces personnes s'acquittent au mieux de leurs devoirs, qu'ils accomplissent ces devoirs selon les préceptes de Dieu. À propos de la Jalsa, souvenez-vous aussi que chacun d'entre vous doit être vigilant quant à son environnement immédiat. Les bénévoles qui sont là, vous devez coopérer avec toutes ces personnes. Il y a maintenant des problèmes de sécurité partout. C'est pour cette raison qu'il faut être très attentif, très vigilant. Qu'Allah fasse que cette Jalsa soit bénie. Que tous les participants de la Jalsa puissent profiter de ces bénédictions qui sont liées avec cette Jalsa, que nous puissions atteindre l'objectif de l'avènement du Messie promet l'Islam et que nous soyons à la hauteur des attentes du Messie promet l'Islam et que ces espoirs fassent partie intégrante de notre vie. Qu'Allah fasse que nous puissions agir en ce sens.